dire d'abord que c'est chaque fois un plaisir de travailler avec Anne parce qu'elle dirige les acteurs, ce qui n'est pas le cas de tous les metteurs en scène. Hein. Parce qu'elle a un amour réel des acteurs aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on essaye de mettre en mouvement une pensée. Et la qualité d'Anne, c'est de toujours laisser ouvert cette pensée. Elle n'est jamais finie. Donc, nous, on y va, on travaille dans l'action, acteur, action. Donc, elle nous nourrit de pensées, nous, on met en action, et en même temps, on pense en s'engageant dans les choses. Et elle récolte, elle nous redonne ce qu'on fait. Elle nous renvoie une image de ce qu'on fait, mais toujours sans arrêter les choses. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui fait que chaque fois, dans la compagnie du revoir, les gens sont là et donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est toujours en travail, en recherche, et à chaque instant, tous les jours. Hein, c'est le matin quand je me réveille, sur le plateau, c'est d'une façon particulière, parce que celle-là, c'est le travail... De l'acteur, c'est un travail, quoi. Mais sinon, c'est aussi dans la rencontre avec les gens tous les jours, dans comment on capte le monde, suivant le travail qu'on fait. Alors, tout le travail de réflexion qui est fait autour de l'œuvre, qui est fait avec Anne, qui est fait avec les autres gens de la production et tout ça, voilà, c'est tout ça, quoi.
Et cette interaction se fait y compris avec les autres acteurs, entre guillemets, dans le sens actif du spectacle, c'est-à-dire la lumière, le décor, tout ça se crée de la même façon.
Absolument, oui, tout à fait. C'est toujours le résultat d'un échange entre les personnes et moi. Et souvent aussi, d'ailleurs, les personnes finissent finalement leur travail au moment où les répétitions commencent, hein, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent en dernier sort de ce qui vient du plateau pour finir le décor, pour finir le costume, et puis les lumières, évidemment, s'inspirent beaucoup du spectacle presque fini, hein, puisqu'elle arrive finalement en bout de course pour mettre en relief finalement ce qui est sur scène.
Dans quelques instants, la suite de notre rencontre avec Francis Cacal et Anne Bizan de la Compagnie du Revoir. Une femme qui parle de l'esclavage des Noirs en Haïti, c'est Toto Bissinthe. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et il nous reste encore quelques instants à passer en compagnie de Francisca Cal et Anne Vizan, de la Compagnie du Revoir, qui présente en ce moment au Théâtre Saint-Gervais un spectacle qui a pour titre « Tableau d'une exécution ». Un texte qui propose un personnage féminin magistral, le personnage de Galaxia, peintre, femme à qui la République sérénissime de Venise, dans la personne du doge, a confié la réalisation d'un tableau qui est censé rendre gloire à la victoire que les Vénitiens ont eue sur les Turcs lors de la bataille de Lépante, bataille navale. Et Galaxia a décidé, elle, de dire ce qu'elle pensait de la guerre, c'est-à-dire de montrer que c'était un massacre. Elle a bien évidemment quelques problèmes avec l'autorité. Et c'est ce rapport entre autorité et artiste que vous pouvez découvrir, c'est ce point de vue sur la guerre d'une femme que vous pouvez découvrir dans ce spectacle. Alors tout de suite, la reprise de notre discussion avec Anne Bizan et Francisca Cal, nous en étions à parler de cette façon de travailler entre metteur en scène et comédien. Avec cette façon de procéder dans votre travail, dans la Compagnie du Revoir, est-ce que vous avez la sensation que la représentation que nous voyons, nous, ici à Genève, de Tableau d'une exécution, est très différente de celles qui ont pu être faites en Angleterre ou celles qui sont faites en même temps, je crois, à Copenhague et à Varsovie, en ce moment même, au mois de janvier 1996?
Alors, vraisemblablement, elles sont différentes. J'ai eu l'occasion, justement, de voir une représentation non pas de cette pièce, mais d'une autre pièce de Barker par le fameux Wrestling School qu'on évoquait tout à l'heure. Le jeu à l'anglaise est totalement différent d'une autre. Nous, on est issus d'une dramaturgie beaucoup plus cartésienne, ma foi, c'est vrai. Le sens du jeu est différent. Il y a une importance qui est donnée au sens, surtout. Hein. Et puis le jeu, finalement, il procède du sens. Mais alors qu'on a l'impression que chez les Anglais, c'est une chose qui est, le sens est une chose presque naturelle et qui s'inscrit dans le jeu. Enfin, il y a un autre rapport. Et puis bon, je pense aussi que ça dépend aussi du type de production. Là, c'est vrai qu'on a une production où il y a 9 comédiens pour jouer 23 rôles. Hein. Donc... Je peux imaginer que là, là aussi, c'est une contrainte qui était financière. C'est vrai, on n'aurait pas eu la possibilité d'engager 23 comédiens. Mais d'un autre côté, je pense qu'on ne l'aurait pas fait non plus. C'est-à-dire que l'important, c'était, comme il y a des petits rôles, c'est bien que certains comédiens en jouent d'autres. Et c'est important de créer finalement une équipe, une petite troupe éphémère de 9 comédiens qui doivent raconter cette histoire coûte que coûte, en se démultipliant. Donc ça, c'est clair que ça donne aussi un esprit au spectacle, c'est évident. Hein.
Mais est-ce que la lecture d'une pièce peut être très différente suivant que c'est Anne Bizan qui a décidé de la mettre en scène? Absolument. Ou si c'est Howard Barker, auteur, ou si c'est monsieur je ne sais trop qui va le mettre en scène à Varsovie ou à Copenhague?
Je pense que oui.
Bah oui, oui, oui. Donc le texte en lui-même est une chose, mais il peut être très beaucoup transformé par la lecture et l'interprétation.
Oui, c'est vrai que c'est toujours le cas. C'est vrai aussi. C'est vrai pour cela dit que pour le théâtre contemporain, on verra peut-être moins de enfin quoi que. Je pense que franchement, je pense que ça doit rien avoir à voir ce qui se passe à Varsovie.
Moi, je me demande.
Et à Copenhague, ça va vraiment être franchement différent de ce qu'on fait nous, probablement. Enfin, mais néanmoins, la lecture qu'on peut faire d'un texte contemporain est différente de la relecture, la millième relecture d'une pièce classique, par exemple.
Hein, mais est-ce qu'on arriverait, par exemple, faire de Galaxia une chipie, comme ce que je peux imaginer qu'on arriverait facilement à faire.
Ouais, absolument. Ouais, ouais. Non, nous, on a beaucoup. C'est vrai, l'écriture, elle est piégeante aussi. Il y a une trivialité qui pourrait la faire basculer dans une certaine forme de vulgarité. On pourrait la voir un peu hystérique. On pourrait la voir militante, aride. On pourrait la voir. Surtout, on a voulu qu'elle reste très digne d'un bout à l'autre de la pièce. Quoi.
Et donc ça, c'est vraiment propre à votre interprétation. On pourrait complètement dévier.
Ouais. Enfin, ça, c'est une chose à laquelle, dans la compagnie, et sur Anne et moi aussi, on s'attache beaucoup à ça, c'est-à-dire aux figures féminines, qu'elles soient belles, quoi, qu'on ait envie de s'identifier aussi à ça.
Surtout sur une figure comme ça, je crois que c'est très important de faire l'autocritique des femmes aussi parfois, mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de représentations dignes, positives, finalement, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Il y en a très peu. Et en plus de ça, souvent, je trouve que les femmes se font piéger elles-mêmes. Hein. Elles reproduisent parfois aussi des images tout à fait contestables.
Parce qu'il faut être vraiment très, très vigilant par rapport à ça. Quoi. On se fait emporter très, très vite si on ne tient pas. Si on n'est pas réveillé tout le temps, on se fait emporter. Quoi,
surtout que nos références, qu'on avale depuis toujours, ce sont des images déformées.
On baigne dans des images déformées sur la femme. Mmh. Donc,
en l'occurrence, qu'est-ce qui alimente alors votre réflexion ? On sait que aussi bien Anne que Francisca, vous êtes engagée dans l'association Femmes de Théâtre, qu'on vous voit souvent dans des moments d'engagement des femmes, en tant que, comment vous appelez-vous, les petites femmes ?
Femmes silencieuses.
Silencieuses, oui, silencieuses. Qui, avec une certaine forme de théâtre de rue, interviennent, suscitent notre réaction dans la rue à certains moments. Tout ça fait partie d'un travail global et qui alimente cette réflexion dont vous parlez maintenant.
Absolument, à fait. C'est indissociable. Ça donne un sens à notre travail théâtral, c'est clair. Hein. Et vice-versa, d'ailleurs. je crois que tout artiste se demande à un moment donné quelle utilité il a. Quand on voit la gravité des problèmes dans le monde. Et celui d'éveiller les consciences, d'offrir des images positives et encourageantes, nous paraît essentiel, quoi. Donc, on est très sensible à toutes ces questions, c'est sûr, en tant que citoyenne et en tant qu'artiste. Ouais, ouais.
Vous nous proposez d'ailleurs, dans le petit texte du dossier de presse qui évoque les femmes, la découverte d'une femme, qu'en tout cas, personnellement, je ne connais pas. Vous parlez de Kate Kollwitz, dont l'œuvre traduirait, je vous cite, « une implication sociopolitique et une dénonciation des conséquences de la guerre ». Alors, merci de nous le faire partager. Qui est Kate Kollwitz ?
Kate Kollwitz est une femme peintre, donc, qui a fait énormément de dessins dans la période de l'entre-deux-guerres à Berlin, où elle dénonçait beaucoup la misère du peuple. Hein, c'était une femme qui était très proche du peuple, qui a aussi perdu des enfants lors de la Première Guerre mondiale, donc qui avait une implication affective dans la dénonciation des guerres, et qui a été mise à l'écart par le pouvoir nazi à un moment donné, hein, dans les expositions collectives auxquelles elle a participé avec ses dessins, on lui a censuré certains de ses dessins, justement, qui montraient finalement les conséquences de la guerre. C'est une femme qui a dû fuir l'Allemagne, évidemment, quand les nazis étaient là, et qui a eu un destin tragique. Elle a perdu donc deux enfants, et puis, en plus, elle est décédée, je crois, quelques jours après la fin de la guerre, donc... C'est vrai que c'est une figure un peu emblématique de ce combat des femmes et des artistes contre la violence.
Le dernier oui que dit Galaxia au Doge, qui vient de se plaindre amèrement après avoir tenté de discuter avec elle sur ce qu'elle mettait dans son tableau, après l'avoir enfermée dans la prison tout en sachant qu'il en ressortirait très peu de jours après, eh bien il dit « Venez manger avec nous parce que je ne supporte pas d'avoir les artistes, de ne pas avoir les artistes à ma table. » Un silence s'installe et Galaxia répond « Oui ». Est-ce que vous pensez, quelle valeur pensez-vous que les gens donnent à ce « oui » ?
Moi, je crois que c'est la subtilité de Barker, c'est d'être resté sur une fin en forme de point d'interrogation et qui effectivement permet aux spectateurs de cogiter sur le thème de la récupération de l'artiste, par exemple, et sur sa vraie liberté, sa vraie subversion. Nous, on a bien sûr un point de vue, mais est-ce qu'il faut le dire ? Je ne sais pas.
Non.
Sais pas s'il faut
c'est
le
pour
dire,
ça que je vous disais.
Moi, c'est très clair.
Est-ce que vous imaginez que les spectateurs, les publics, ouais, mettent derrière ce oui ? Parce qu'effectivement, c'est une des dernières choses dont j'aurais aimé qu'on discute, c'est que s'il y a quand même de terrible dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que malgré la lutte, l'énergie de Galaxia, malgré elle, peut-être, elle pourrait être, comme on dirait aujourd'hui, récupérée. Mm-hmm.
Elle pourrait être.
Elle ouais. pourrait. Elle
Mais pourrait. À la lecture de la... Vous voyez la balance, hein, c'est-à-dire qu'il y a une immense pièce de 2 heures pratiquement qui raconte la liberté de cette femme et sa force. Et ça se termine sur ce petit oui. Hein. Donc au fond, dans la balance, je crois que le public doit voir ça. C'est la force qu'elle a pendant 2 heures. Et puis le petit oui qu'elle met du côté du Doge. Hein. Bon, alors après, c'est une question d'équilibre, effectivement. Après, qu'est-ce qui se passe ?
Je vous rappelle que c'était une rencontre avec Anne Bizan, metteur en scène, et Francisca Cal, comédienne de la compagnie du Revoir. Cet entretien, je l'avais réalisé en janvier 1996, à l'époque où la compagnie du Revoir créait Tableau d'une exécution, cette pièce écrite par Howard Barker, écrivain contemporain anglais. Ce spectacle est aujourd'hui repris par le Théâtre de Saint-Gervais où il avait été créé en janvier 1996. Il sera joué jusqu'au 13 avril, le mardi, jeudi, vendredi, samedi à 20h30, le mercredi à 19h, le dimanche à 17h et relâche le lundi. Et puis, comme toujours dans le cadre du Théâtre de Saint-Gervais et aussi de la Banane Bleue, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la Banane Bleue, c'est cette action Théâtre sans frontières proposée auquel participe le Théâtre Saint-Gervais et puis les théâtres du bord de la côte française, Thonon, Évian, Montais, et puis de la région Rhône-Alpes française. Eh bien, dans ce cadre-là, le tableau d'une exécution est repris et on propose non seulement les spectacles, mais des soirées particulières liées au contenu du spectacle. Et en l'occurrence, lorsque Tableau d'une exécution est joué à Genève, vous pourrez avoir 3 journées particulières. La première, c'est aujourd'hui, mercredi 9 avril, à 21h45. Eh bien, Howard Barker, l'écrivain qui a écrit le texte du spectacle, sera là dans une rencontre animée par Anne Bizan et les acteurs et actrices de la compagnie du Revoir. Je répète, donc ce soir, mercredi 9 avril, au Théâtre Saint-Gervais, à 21h45, rencontre avec Howard Barker, l'écrivain contemporain de Tableau d'une exécution. Et puis jeudi 10 avril, au théâtre en rond, c'est-à-dire au 7e étage du théâtre de la Maison de Saint-Gervais, à 19h, sera diffusé le film vidéo qui a pour titre Ways of Seeing, voir le voir en français, qui a été réalisé par John Berger et qui nous montre comment voir différemment des œuvres d'art, des tableaux que tant de musées présentent comme des reliques sacrées. Et le réalisateur, l'auteur de ce film, film réalisé aussi en collaboration avec Michael Dibb de la BBC, eh bien John Berger nous invite à une sorte de façon de se réapproprier
notre héritage culturel, à reprendre à notre compte une histoire qu'on entoure délibérément de barrières inutiles, d'une certaine façon pour nous empêcher d'y puiser des raisons d'agir. Ça, c'est ce que dit Jeanne Berger. Donc, je répète, jeudi 10 avril au Théâtre en Ronde, 19h, diffusion de Ways of Seeing, film réalisé par Jeanne Berger et Michael Dib. Et puis, lundi 14 avril, qui est normalement relâche pour le spectacle de théâtre, eh bien, au CAC Voltaire, à 20h, vous pourrez voir le film de Colline Serrault, « Mais qu'est-ce qu'elle vole ?». Ce film avait été réalisé par Colline Serrault en 1975. Et c'est l'histoire qui paraît très très simple en apparence au point de départ, mais qui va très loin dans le discours et dans la façon dont le film interpelle le spectateur. Ce sont des femmes qui sont interviewées et qui rapportent sur elles-mêmes leur insertion familiale et sociale, leur biographie, leur travail, leur lune, c'est-à-dire leur matière en elle-même consistante. Et ce film est évidemment une affaire d'enquête et de choix de femmes qui sont, en l'occurrence, particulièrement réussi. Alors voilà, tableau d'une exécution, en reprise au Théâtre de Saint-Gervais, je le répète, jusqu'au 13 avril à Genève. Vous pouvez réserver en appelant le 908 20 20 de 14h à 18h. Je répète, vous pouvez réserver en appelant le 908 20 20 du lundi au vendredi de 14h à 18h. Et le spectacle est joué le mardi, jeudi, vendredi, samedi à 20h30, le mercredi à 19h, le dimanche à 17h et trois soirées spéciales. Ce soir 9 avril, rencontre avec Howard Barker à 21h45 après le spectacle. Jeudi 10 avril, vidéo Ways of Seeing, une façon de voir autrement des œuvres d'art enfermées habituellement dans les musées. Et puis lundi 14 avril, Mais qu'est-ce qu'elle vole, diffusé au CAC Voltaire, attention, à 20h. Je vous rappelle aussi que si l'interview que vous venez d'entendre de Anne Bizan et Francisca Kahl avait été réalisée en janvier 1996, aujourd'hui il aurait fallu faire l'interview avec Doris Ittig en lieu et place de Francisca Kahl, puisque c'est elle qui reprend le rôle-titre de Galaxia dans le tableau d'une exécution. Mais à vous d'aller découvrir le nouveau personnage qui sera campé par Doris Ittig. Et je pense que le travail avec Anne Bizan et la compagnie de Revoir reste le même. À vous d'aller découvrir ce spectacle magistral, ce personnage féminin incroyable, ce texte superbe qui, bien qu'étant situé au moment de la Renaissance italienne de la République vénitienne, est une critique de notre société en bonne et due forme. Sur le rôle des artistes dans une société, les liens avec le pouvoir et comment une femme, elle, choisit de vivre ce lien différemment. La chanteuse que vous venez d'entendre, c'est Maria Cristina Kerr, soprano, qui interprétait des œuvres composées par Barbara Strozzi, qui a vécu, entre autres, à Venise, entre 1619 et 1664, l'époque de la Sérénissime République de Venise, dans un cadre historique dans lequel est campé le tableau d'une exécution. Je vous propose, pour terminer cette émission, d'écouter une Italienne d'aujourd'hui, puisque Gianna Nannini et son Male Femina est bien d'aujourd'hui complètement. Et je vous annonce que la semaine prochaine, eh bien, nous rencontrerons dans Remue Ménage des femmes qui ont participé à la 9e conférence internationale Femmes et Santé qui a eu lieu au Brésil à la fin du mois de mars. Et ces femmes de Genève, investies d'une façon ou d'une autre dans le monde de la santé à des femmes, viendront nous rapporter ce qui s'y est dit, quels étaient leurs projets, quelles sont les principales préoccupations des femmes en matière de santé aujourd'hui.
Strategia.